Bonjour chers auditeurs et bienvenue en discussion, une série d'entretiens menés avec les collectifs et les ateliers partagés de la ville de Marseille. Ces discussions sont l'occasion de s'intéresser à leurs pratiques et leurs questionnements qui ensemble participent à repenser les modèles. Aujourd'hui, rencontre avec Aplomb.
La même école, on était tous les trois étudiants aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence sur différentes promos. En 2019, on a l'opportunité de rejoindre un projet qui s'appelle les 8 pillards à Plombières. Et on a tendance à dire qu'on a une naissance jumelée avec les 8 pillards parce qu'en fait on a fondé les deux associations en même temps. Et on est cofondateur des deux.
On va expliquer aussi un peu ce que c'est les 8 pillards. C'est une association collégiale, du coup, où il y a 8 vice-présidents et pas un seul président, du coup, ou présidente. Et ça regroupe environ 75 personnes dans le champ des arts, de l'artisanat, de l'architecture, de l'urbanisme. Et on a co-construit nos espaces dans une ancienne usine située à Plombières, le long du boulevard. Et on y est depuis juin 2019. Ça fait 3 ans qu'on y est. Voilà, du coup, à la fois, on a implanté l'espace de l'association Aplomb, et comme à Plombières.
C'est notre anecdote. La voici.
Voilà, on la sort d'entrée. Et voilà, on a décidé une chose qui a été assez fondatrice dans le projet, c'est de garder la moitié des espaces communs, accessibles à tous et même des gens qui ne font pas partie des 8 pillards. Et l'autre partie, plus privative, avec des ateliers ou des bureaux en fonction des structures.
Ce qui est intéressant avec Aplomb, c'est que c'est une association qui a été fondée par des artistes plasticiens, plasticiennes, mais qui aujourd'hui regroupe des arts visuels, des arts scéniques, de l'artisanat, c'est-à-dire qu'on s'est ouvert à d'autres pratiques que les nôtres, justement, pour créer de l'énergie créatrice, de nouvelles rencontres, du partage de savoirs et de connaissances que nous, on n'avait pas forcément. Donc en fait, aujourd'hui, on n'est plus qu'un seul atelier d'artistes plasticiens, on est vraiment pluridisciplinaire dans sa forme large, culturelle.
En fait, on s'est quand même beaucoup inspiré de l'environnement dans lequel on était, donc l'usine Pillard. Et comme on n'avait jamais créé d'association, jamais réfléchi sur des questions de gouvernance, de comment on répartit les espaces, comment on répartit les charges, en fait, on s'est beaucoup inspiré de nos voisins et de ce qu'on vivait à l'échelle de l'usine. Et du coup, c'est pour ça qu'on a commencé que des artistes plasticiens, mais qu'on a choisi de ne pas rester cantonné au champ de l'art.
Et peut-être que le modèle associatif qu'on aurait choisi si on était arrivé après chez les 8 pillards, peut-être que ça aurait été un modèle justement de collégial, une forme collégiale. Aujourd'hui, on est un bureau classique, loi 1901, alors que je crois que le modèle finalement d'organisation horizontale, d'ateliers partagés, etc., en fait, se rapproche finalement beaucoup plus du modèle de gouvernance des 8 pillards que ce qu'on mène aujourd'hui avec une forme de hiérarchie, trésorier, président, secrétaire. Il me semble moins adapté finalement à ce qu'on fait, à nos interactions réelles au sein de l'assaut.
En fait, il y a déjà beaucoup de structures chez nous, comme ETC, Pas Perdu, Cabane en Verticale, qui travaillent beaucoup avec des publics. En extérieur, ou des fois en les invitant dans leurs espaces. Et nous, on va dire que le truc un peu symbolique, c'est qu'on a mis bien 3 semaines à se fabriquer des portes de 4 mètres de haut et qu'on les ferme jamais. Du coup, on laisse notre espace ouvert en permanence. On n'a pas de grande crainte de perdre quelques outils par rapport à ce que ça génère, ne serait-ce que pouvoir rentrer, même pour rien y faire en fait. Juste de rentrer, voir. Ensuite, on a aussi construit les murs et les cloisons de notre espace dans cette idée-là. d'ailleurs une bonne partie vitrée grâce à du réemploi de matériaux avec une association qui s'appelle Raedificare. Donc à la fois voilà, pour des raisons économiques, aussi écologiques. Et voilà, cette interface vitrée avec un espace commun qui est la cuisine, l'endroit où on se restaure, bah, permet plein de dialogues, ne serait-ce que visuels. En fait. Et également, on a pour habitude, depuis qu'on y est, d'inviter ou de recevoir ou d'accueillir pas mal de personnes, d'artistes, de pas que, qui ont besoin de produire des choses, réfléchir.
Sans parler d'aplomb, mais aussi des lumières, c'est-à-dire qu'il y a... l'espace est très ouvert à la rencontre avec d'autres types d'acteurs, actrices du territoire. Et ça nous semblait important, en tout cas pour nous, notre association qui a pour vocation justement de s'ouvrir et d'être un nombre non limité dans ses membres au sein de l'association, bah, de pouvoir accueillir de manière temporaire aussi des personnes dans le besoin, soit pour le montage d'exposition, soit pour la création, soit pour la recherche, soit pour de l'écriture, enfin vraiment des formes très diverses. Mm. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le lieu, les huit pierres, il n'y avait rien. Il y avait tout à faire, que ce soit dans les espaces communs ou dans les espaces plus privatifs, comme le nôtre. Donc le nôtre, il n'a ni cloison, ni eau, ni électricité. Il a un seul mur sur quatre, l'étage est dans un état lamentable. Donc vraiment, tout est à inventer. Et notre... par l'économie très précaire... qu'on a, on fait le choix aussi d'utiliser, de réemployer les matériaux déjà qui sont sur place. Donc ça comprend des grandes étagères qui sont utilisées pour faire nos établis, mais aussi pour l'armature de nos futures portes de 4 mètres. Il y a en fait énormément d'éléments qui font partie de l'histoire de Pillard qui réapparaissent dans notre atelier et dont on a pris soin en fait de les garder, de les préserver et de les mettre en avant en valeur.
D'accord.
Tout ensuite, après, en réutilisant d'autres matériaux, donc comme on disait tout à l'heure, issus d'autres bâtiments, des constructions portées par l'association Raedificare. Et en fait, c'est vraiment la rencontre entre deux époques, finalement, ou même plusieurs, même pas que deux, mais une infinie d'époques, et qu'on choisit en tout cas de mettre en avant dans notre atelier.
Et aussi d'en archiver l'ensemble du processus de construction. Ce qu'on peut parler aussi, c'est la construction sans planification préalable. C'est quelque chose qu'on a expérimenté pour construire nos espaces, qui est complexe parce qu'elle prend du temps, plus de temps peut-être que de dessiner au préalable des espaces et ensuite les construire sur plan. Mmh. Et en fait, on est arrivé dans des espaces qui étaient tellement démesurés par rapport à nos expériences architecturales qu'on a préféré y aller... petit à petit et de manière empirique parce que tout nécessite de la hauteur, de la force parce que les choses sont grandes, lourdes. Voilà, cette manière faite à l'expérience, bah, elle a généré une forme architecturale et esthétique qui au final a une certaine qualité en fait.
On n'est pas des archis, on est des artistes. Moi j'ai un peu l'impression on l'a pensé et construit comme des artistes, même si on est sur le terrain de l'architecture, vu qu'on a construit des espaces de travail. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ces espaces ils sont un peu à un endroit de croisement, pas que géographique, mais aussi entre l'art, l'architecture, le design, l'ergonomie. Et ce qui fait que maintenant, on a un atelier qui est très modulable, en fonction de nos besoins, de nos usages, du moment, ça peut se transformer en atelier pour travailler le métal, ou le bois, ou en espace d'exposition, en espace de projection, de rencontre. Je crois que si on l'avait construit sur plan à la base, il y a plein d'usages qu'on a aujourd'hui qu'on ne pourrait pas avoir.
À l'heure actuelle, on est 3 résidents permanents. Et ensuite, il y en a qui ne vivent pas à Marseille, ou qui passent quand ils peuvent. D'autres qui ont des déménagements, d'autres qui viennent uniquement pour un projet et puis qui repartent après. On a des principes de convention courte.
D'accord.
Qui permettent ça et d'être renouvelé
au besoin.
Et voilà, ensuite, sur le fait d'être résident permanent, c'est une grosse implication à la fois pour gérer notre association, donc Aplan, et les UPIR. Avec une, pour les deux, une quantité difficilement quantifiable de réunions, de discussions, de présence que nécessite un tel espace géré collégialement. En fait.
J'aimerais aborder un peu l'aspect du coup de la production aussi artistique. Ouais. Sur la vôtre, personnellement, est-ce que aussi les frontières sont entre guillemets poreuses, est-ce qu'en fait vous travaillez sur des projets ensemble, communs, est-ce que le projet de l'un ou de l'une influence celui de l'autre, et en fait on a envie de participer à ce projet en cours, comment ça se passe la vie d'atelier en fait, en termes de production artistique?
Je pense qu'on travaille sur trois dimensions, nos pratiques personnelles, chacun, des pratiques collectives, avec des créations d'œuvres à plusieurs, des recherches menées ensemble sur du long terme, sur du court terme, en fonction si c'est pour un événement, ou, comme ce peut être le cas pour Thomas et moi, c'est des recherches qu'on mène depuis quand même pas mal de temps ensemble. Et la troisième dimension, c'est l'espace, en fait, qui est une œuvre en soi. En fait, moi, quand je viens à l'atelier, j'ai aussi l'impression de venir dans un... Je rentre dans une œuvre qui n'est jamais terminée, et tant mieux. Parce qu'on a pu expérimenter d'exposer à l'intérieur, et je pense qu'on n'avait jamais connu ça avant, d'exposer dans des lieux qu'on a nous-mêmes construits. Quand tu te retrouves à exposer dedans, y a plein de choses qui prennent sens, qui n'avaient pas forcément avant. Et...
Oui, et aussi parce qu'a priori, souvent, en tout cas, on souhaite que les travaux prennent fin, alors que là... Là, c'est infini, c'est-à-dire qu'en 3 ans et demi aujourd'hui, l'atelier, on parle même plus de travaux, mais vraiment, il est inventé, réinventé au quotidien. Donc ça, je pense que s'il y a quelque chose qui réunit nos pratiques individuelles, finalement, sans parler réellement des médiums qu'on emploie, ce serait l'atelier. Ce serait l'atelier et même qu'est-ce que c'est Aplon, en fait, le modèle de réflexion que ça engendre, c'est du quotidien. J'ai l'impression qu'on parle, en termes de, si ce serait quantifiable, on parle beaucoup plus de qu'est-ce qu'on veut pour notre association, qu'est-ce qu'on veut pour notre atelier, que finalement nos pratiques individuelles et respectives.
Oui, parce qu'au fond, là, on en est arrivé au point à se dire, OK, l'espace fait sens et fait œuvre, mais le temps passant, on va se dire, OK, en fait, forme associative, elle aussi relève d'une forme artistique aussi en soi.
Et sinon, j'ai l'impression aussi, pour revenir un peu à la question initiale, que si on devait vraiment parler de nos démarches artistiques personnelles, toutes les trois, elles sont très influencées par le lieu et l'aventure des UPIR. En fait, c'est indéniable, c'est-à-dire que ça transpire dans toutes les dernières propositions artistiques. C'est ça qui est au cœur même de nos pratiques. Et c'est pour ça que l'année dernière, on a monté une exposition, donc Aplon a monté une exposition qui s'appelait Désir moteur, qui s'inscrivait dans la saison du dessin 2021. Et c'était finalement, on n'a même pas eu tant besoin de se le dire, mais c'était ça le cœur même du sujet. C'était nos pratiques au regard de l'aventure qu'on est en train de vivre et qu'aucun d'entre nous n'a déjà connue et qui est si intense, si riche et si énorme. Que ça nous semble, enfin en tout cas moi de manière très personnelle, ça me semble impensable d'avoir une pratique qui n'est pas liée à ça. C'est trop présent.
En fait, même à que ça soit chez nous ou à l'échelle de UPIR, à la base on se réunit tous parce qu'on veut juste avoir des espaces pour pouvoir travailler. Et il se passe un truc, c'est que ben en fait, on arrive on se rencontre tous, on passe, on arrive à créer des manières de fonctionner ensemble et de faciliter l'intelligence collective. Et en fait, ça fonctionne. Ça, on ne l'avait pas du tout prévu. Et on se rend compte qu'il y a une richesse qui est créée, qui n'était pas intentionnelle, qui n'était pas planifiée, mais qui est là et qui, avec le temps, se renforce et se consolide. Et voilà.
tout cœur.
On attendait la fin.
Non, mais c'est, en fait, on a des gens qui observent nos processus de travail et nos créations sur un temps très long, qui viennent de différents horizons, qui ont différents points d'entrée sur nos, sur ce qu'on crée. Et c'est très précieux, en fait. Ça crée des regards sur un long terme qui génèrent des discussions aussi, qui sortent des fois de la discussion de bout de surface qu'on peut avoir en vernissage sur une œuvre
précise,
finalisée, décontextualisée. Et, alors que là, c'est sur un ensemble, en fait. Ça crée déjà de belles amitiés,
ouais.
et aussi des relations de travail. Parce que du coup, on est plein de conseils, en fait. Au plus ça avance, au plus la qualité humaine qu'on trouve à Pillard, elle dépasse la démesure de l'architecture dans laquelle on se trouve et égaye aussi les craintes qu'on peut avoir sur des occupations temporaires ou des choses comme ça, avec des relations humaines qui, elles, ne s'arrêtent pas aux questions de beau et de convention.
En tout cas, comme tu peux t'en rendre compte, on est incapable de dissocier aplomb et pire.
C'est vrai.
On n'en est pas capable.
Je crois avoir remarqué.
À penser les pillards, nourriture. Ouais, comme on disait, on a fondé ces deux structures en même temps. Et étant aussi cofondateur des 8 pillards, c'est, c'est le sang même d'aplomb, quoi.
L'essence.
Il y a forcément des allers-retours.
Ce qui est très différent de nos voisins, parce qu'il y a chez nos voisins, il y a des structures qui ont 10 ans d'existence, 20 ans, du coup, qui arrivent dans cette aventure avec déjà une manière de fonctionner et qui sont donc obligés d'adapter leur fonctionnement à ces nouvelles conditions, là où nous, on construit les choses ensemble et on a été moins dans le cas de certains de nos voisins à devoir mettre un rond dans un carré. On dessine les deux trucs en même temps, du coup on fait en sorte que ça semble bien.
Et j'avais une question également sur l'économie de votre atelier, également s'il y a une forme d'aller-retour avec les 8 pillards qui s'opèrent, parce qu'on paye un loyer aux 8 pillards. Voilà, comment est-ce que ça se passe aussi dans votre économie? Est-ce que votre forme associative et votre atelier, votre activité en atelier permet de vous rémunérer? Est-ce que c'est une activité rémunérante ou pas? Comment est-ce que ça se passe pour vous de votre côté?
Bah, en tout cas, c'est vraiment lié aux fonds propres des membres de l'association. Après, il y a tu demandais par rapport aux 8 pillards aussi. Il y a eu un événement qui a été porté par les 8 pillards et accompagné par aplomb qui s'appelle Eniaroff, qui était une fête foraine populaire et numérique, qui a été créée par Antonin Fourneau et donc qui avait été invité en avril 2022 à proposer cette fête foraine. Et donc, du coup, ça a été un portage collectif où, du coup, dans ce cadre-là, Thomas, d'ailleurs, a participé à la création d'un dossier de Dicréam qui a été présenté par les 8 pillards. Et donc, du coup, en fait, c'est une coproduction des deux associations qui font que Eniaroff a pu exister et a pu prendre une ampleur telle que ça a eu à ce moment-là, quoi. Donc, nous, en fait, au sein d'aplomb, c'est ma manière de répondre aux subventions, en fait. Nous, au sein d'aplomb, on ne fait pas la course aux subventions parce que, ça prend énormément de temps et je crois vraiment qu'il faut des projets pour prétendre à des subventions. Donc la seule demande d'aide qu'on a réalisée, c'est l'aide aux ateliers collectifs pour avoir du matériel, etc., pour s'installer en tout cas. Mais sinon, quand on veut monter des projets, étant mine de rien résident des 8 pillards, on monte ces projets-là en coproduction avec les 8 pillards et c'est par ce biais-là, même si on participe énormément administrativement, c'est par ce biais-là en tout cas qu'on monte nos projets.
Le modèle associatif, je crois que pour nous c'est un choix, pas pour des raisons de économiques, mais plus pour des raisons de fonctionnement. Ce qu'on a écrit, nos statuts, notre règlement intérieur, c'est un contrat, même si on ne respecte pas toujours à la lettre ce qu'on a écrit,
qui permet de mettre un cadre de fonctionnement collectif entre nous, quoi, des règles de base. Actuellement, ça plus, le choix du modèle associatif a plus cette fonction-là de liant que d'outil juridique qui nous permettrait de prétendre à des financements quelconques. Et...
Du moins, on en est là aujourd'hui.
Ouais,
après,
ouais,
c'est-à-dire
parle
que...
d'aujourd'hui.
Voilà. Je suis pas sûr que quand on s'est formé, je suis pas sûr qu'on s'est dit qu'un jour notre structure associative permettrait forcément de rémunérer l'un d'entre nous, parce qu'on était vraiment parti sur un statut égalitaire. Où, enfin, c'était très utopique finalement avec le recul qu'on a aujourd'hui, mais notre souhait c'était vraiment de se dire tout le monde donne autant que tout le monde. Enfin. Du coup, vu qu'on était quand même assez nombreux, on était 6-7 à la genèse, c'était inenvisageable de se dire qu'on allait tous être rémunérés. Donc je crois qu'on a assez facilement et rapidement évacué cette question et qu'on ne s'est pas tant focalisé sur la question financière, mais plus sur la question de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Je crois, si je ne dis pas de bêtises.
L'économie, elle est avec le temps et avec la... consolidation de toutes ces relations autour de nous dans Pillard, en fait, ça nous a ramené aussi pas mal d'opportunités de travailler par-ci par-là, aider un tel sur un projet artisanal. Et ensuite, dans tous les cas, il y a une adaptation de notre mode de vie et de nos créations en fonction de nos économies. Du coup, on se contente de ce qu'on a et c'est déjà pas mal. Le fait que les pratiques d'atelier sont devenues collectives, peut-être plus que dans les années 90, et qu'à plusieurs, bah de sûr, tu prends plus d'espace, et ça revient moins cher à chacun individuellement, et c'est, y a un autre rapport quand tu es plusieurs à inviter des gens à venir dans ton atelier, que quand tu es seul, en fait, tu dis venez me voir. Et c'est pas, moi je me sentirais moins à l'aise en disant que j'ai un atelier tout seul, en disant venez me voir, j'expose moi dans mon atelier. Alors que là, vu qu'on est plusieurs, je suis moins un truc de dire venez me regarder à moi. Quoi. Venez nous voir, nous rendre visite.
Oui, d'ailleurs, il n'y a jamais eu aucune exposition individuelle au sein d'Aplomb, c'est-à-dire que ça s'est produit uniquement dans le cadre collectif de l'exposition de Dire Moteur. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça aurait pu être tout l'inverse, c'est-à-dire que. On vient de sortir de l'école, on a envie de montrer notre travail, tout le monde presque prendrait rendez-vous pour dire ok, alors en novembre c'est à moi, après toi si t'as envie, etc. Alors que là ça s'est jamais passé. On a toujours eu l'angle du collectif en se disant bah, on montre collectivement notre travail et ça prendra toujours le pas en fait. Oh, je suis assez étonnée de ça. Surprise, heureuse, surprise.
En 3 ans, on aspire quand même à être indépendant, que ce soit politiquement, économiquement, idéologiquement, tout ce que tu veux. Et du coup, en 3 ans, on a quand même réussi à se construire un certain degré d'indépendance, que ce soit vis-à-vis de structures de diffusion, de production, vu qu'en fait, on a notre propre espace de diffusion, on a notre propre espace de production qui est partagé avec d'autres, mais qui nous donne une marge de manœuvre qui est assez confortable à nos âges en plus. Parce qu'on n'est pas des grands artistes internationaux avec des budgets infinis. On a quand même une certaine liberté de faire un peu ce qu'on veut, que si on a envie d'exposer, de montrer notre travail, on n'est pas obligé d'aller demander à une galerie de dire « Ah, vous n'auriez pas un créneau, on a un projet qu'on voudrait montrer. » On veut le faire, on le fait. Et c'est très confortable. Et agréable.
Donc, finalement, aussi ce que tu disais que vous n'étiez pas des grands artistes internationaux, il n'y avait pas un budget illimité, mais finalement, ce qui est prime, c'est plutôt la liberté de pouvoir montrer... ce que l'on souhaite au moment où l'on souhaite.
Et pour faire un pont avec la question des subventions, vu que notre économie n'est pas du tout basée là-dessus, on a une très grande liberté politique qui devient beaucoup plus complexe à partir du moment où on prend de l'argent public, on a des comptes à rendre à
collectivités
territoriales, qui sont variables en fonction du bord politique qui a été élu. Tout ça, on s'en émancipe. Peut-être qu'on a peut-être un peu moins de confort économique, mais on le gagne en liberté.
Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Cet entretien, comme tous les autres à suivre, a été mené dans le cadre de Murmuration Volet 2, une exposition produite par Frame à la Friche Label de Mai, à Marseille. Cet épisode a été réalisé par Cyril Bergougnou avec l'aide et le soutien de toute l'équipe de Frame. Un grand merci au collectif et aux ateliers partagés de s'être prêtés au jeu et d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver et réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur notre site internet frame.art. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles discussions.